Attends. Alors on était dans une grenouille géante en fait. Grande de là, au moins tout là-bas. Il y avait des pins, hein, mais des vrais, pas comme les grenouilles géantes. On était dans un jardin déjà, et on volait sur des chaises. Un manège géant, c'était trop bien, trop rapide, trop chouette.
Au jardin d'acclimatation, cultivons l'inattendu. Préparez votre visite. Réservez vos billets sur jardindacclimatation.fr.
Avec de belles éclaircies, mais une nouvelle perturbation arrive cet après-midi par le Finistère avec de nouvelles pluies. Ce matin, 5 à 16 degrés et cet après-midi, 13 à 26. Ça se radoucit très nettement. Ça, on le sent bien en revanche.
On commence à le sentir. Merci Anissa Haddadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Les financements de la région Île-de-France à Sciences Po Paris suspendus tant que la sécurité et la sérénité n'y seront pas garanties. C'est une annonce de Valérie Pécresse après les blocages menés par des manifestants pro-palestiniens la semaine dernière. Des entraves qui ne sont pas du goût de la plupart des étudiants. Une majorité silencieuse qu'Europe 1 a rencontrée. Éloigner nos enfants des écrans, c'est une priorité pour Emmanuel Macron qui a commandé un rapport sur le sujet. Ses conclusions sont publiées aujourd'hui. On va vous en dire plus dans ce journal. À venir également, le ras-le-bol du maire de Givors dans le Rhône. Après l'incendie de deux véhicules de la police municipale ce week-end, il souhaite armer désormais ses agents. Et puis J-1 avant PSG Dortmund, demi-finale aller de la Ligue des Champions demain soir. 4000 supporters parisiens vont faire le déplacement. Le journal de 5 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sans retour de la sérénité et de la sécurité, Sciences Po Paris n'aura plus un sou de la région Île-de-France. Sa présidente LR, Valérie Pécresse, a annoncé suspendre son financement à l'Institut d'études politiques parisien, appelant, je cite, à un sursaut d'autorité contre une minorité de radicalisés instrumentalisés par LFI, des militants pro-palestiniens qui ont bloqué la grande école la semaine dernière et contre qui la direction n'a pris aucune sanction. Hier, les cours ont repris et à l'approche des examens, la plupart des étudiants sont soulagés. Une majorité silencieuse qu'a rencontré Caroline Baudry pour Europe 1.
Les drapeaux palestiniens sont repliés, les pancartes à slogans rangées, mais Ethan, 20 ans, exige une réponse plus ferme de la direction après ce qu'il raconte avoir vu dans son école.
Pour les gens qui bloquent, qui font du trouble à l'ordre public, des slogans « From the river to the sea » qui appellent clairement à la destruction de l'État d'Israël, des images avec les mains rouges qui rappellent en fait un attentat qu'il y a eu à Ramallah. Si en tout cas c'est fait volontairement, ça doit amener une sanction.
Le malaise autour du noyau dur de militants est palpable, lâche discrètement Samuel et Azilis.
Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est un désastre. La cause est largement défendu. Mais il y a, je pense, une majorité de positions plus nuancées.
Et il y a l'autre majorité silencieuse qui, elle, veut simplement exercer ses études dans un calme, dans une tranquillité.
Et dans le dialogue qui semble être resté aux portes de l'établissement, Isabelle est professeure d'espagnol. Elle se dit marquée par sa tentative d'échange avec ses étudiants.
Il y a eu un silence de plomb, comme si tout le monde surveillait beaucoup ses mots. Il y avait une tension très forte et des réactions à fleur de peau, au point que je me suis dit que comme ça n'avait pas de relation avec mon cours, j'allais cesser d'en parler.
Ici, la majorité des jeunes rencontrés, stressés par les examens, parlent déjà du blocage au passé. Être politisé, oui, mais pas question de devenir le théâtre de certains candidats à l'approche des élections européennes.
Caroline Baudry est face à la suspension des financements de la région Île-de-France. Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, qui soutient les étudiants pro-palestiniens, dénonce une honte et un scandale absolu.
Mathilde Panot, convoquée aujourd'hui par les enquêteurs de la police judiciaire.
Avec Rima Hassan, qui figure sur la liste LFI pour les européennes, toutes deux devront répondre à des accusations d'apologie du terrorisme après un communiqué du groupe LFI publié le 7 octobre dernier qui tentait de justifier les massacres du Hamas en Israël. Un rassemblement pour les soutenir est prévu à 8h30 près du tribunal de Paris et des locaux de la police judiciaire.
Il est 5h04 sur Europe 1. Savez-vous dire combien de temps vous passez chaque jour sur vos écrans? Combien de temps vos enfants passent, par exemple, devant des dessins animés ou des jeux vidéo?
Question essentielle alors que les télévisions, les tablettes, les smartphones prennent de plus en plus de place dans la vie de nos petits et de plus en plus tôt. Un sujet sur lequel Emmanuel Macron a missionné 10 experts en janvier dernier. Leur rapport est publié aujourd'hui. Ses préconisations, pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans.
Les écrans qui isolent et qui coupent les interactions sociales, c'est un problème dont les enfants ont bien conscience.
Oui, pour preuve, ce reportage de Louise Salé, elle s'est rendue dans une classe de CM2 dans le 19e arrondissement de Paris, où le professeur Gilles Vernet échange régulièrement avec des élèves. Écoutez.
Alors, levez le doigt, ceux qui ont leur smartphone. 1, 2, 3...
Monsieur Vernet fait le décompte. Un tiers de la classe en possède un, la moitié à une console. Et à 10 ans, ils sont bien conscients déjà du risque d'addiction.
Un jour, pendant les vacances, j'avais pris le téléphone à 8h. Je ne l'avais pas quitté. Le soir, j'ai regardé 2 films d'affilée. J'avais hyper mal aux yeux et à la tête. Je n'arrivais pas à dormir.
Ça détruit le cerveau. Carrément, t'oublies tout ce que tu fais. T'es comme dans une bulle.
Et par exemple, si tu regardes une petite vidéo, une fois que tu l'as terminée, ça te propose plein d'autres vidéos pareilles.
Et ça, ça vous enferme.
Et quand toute la famille s'y met, les relations en pâtissent.
Ma mère et mon père, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ils s'en fichent que moi et mes frères et sœurs, on regarde notre téléphone jusqu'à l'infini. Ils vont rien dire.
Et si on se parle plus, et si on s'ignore, et si on est des murs, bah je sais pas où est-ce qu'elle est l'affection. Hein. Qu'est-ce qu'on perd?
Tu perds des relations sociales avec eux, t'échanges moins avec eux, t'apprends moins bien à les connaître.
Très vrai.
Monsieur Vernet insiste par exemple sur le plaisir de jouer en famille ou de lire pour combattre l'ennui.
Louise Salé du service Société d'Europe 1.
L'adolescent de 15 ans, auteur présumé des coups de couteau qui ont tué Matisse à Châteauroux, a été mis en examen hier soir pour meurtre.
Le jeune homme d'origine afghane a été placé en détention provisoire. Sa mère, également mise en examen du chef de violence volontaire pour avoir asséné des gifles à la victime, a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son fils. Une marche blanche pour Matisse est prévue samedi.
À Givors, à présent, près de Lyon, après l'incendie volontaire de 2 voitures de la police municipale, le maire d'hiver gauche, ancien écologiste, souhaite désormais armer ses policiers.
Mais pas question pour lui de laisser s'installer l'insécurité alors que des bandes de mineurs violents sèment le trouble dans la ville depuis plusieurs semaines. Samedi soir, c'est l'arrestation de 4 d'entre eux qui auraient déclenché une vendetta des jeunes contre la police. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans la région, Jean-Luc Boujon.
Voilà plusieurs mois que la tension est montée d'un cran à Givors jusqu'à l'action de samedi soir. Une 30aine de jeunes qui brûlent 2 voitures de la police municipale garées dans l'enceinte de la mairie. Des jeunes qui voulaient, semble-t-il, se venger de l'arrestation de plusieurs de leurs camarades quelques heures plus tôt, explique cet habitant.
Il n'y a rien qui justifie les incendies des véhicules municipaux, sauf que s'il y a eu des rixes, ce n'est pas dû à une simple interpellation des jeunes, mais plutôt qu'il y a eu de la part des forces de l'ordre, et c'est dommage, des jets lacrymogènes sur des mamans, des enfants et des personnes âgées, sans faire de distinction. Quand on fait une interpellation, on fait partie des forces de l'ordre, il faut faire attention à ses habitants.
Je ne laisserai pas la terreur s'installer, répond le maire d'hiver gauche, Mohamed Boudjelaba, qui souhaite désormais armer ses policiers municipaux.
Je suis un maire en colère qui dit stop, on arrête. Nous gênons beaucoup de monde et nous allons continuer à les gêner. Nous ne lâchons rien.
Un climat dénoncé par beaucoup d'habitants.
Les jeunes, ils font n'importe quoi, j'y vois, ça craint plus. C'est pas très bien fréquenté.
Et vous songez à déménager?
Ah ben nous, on a vendu notre maison, donc on va partir, ouais.
Une réaction qui est loin d'être un cas isolé. Givors, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Le foot à 5h07 sur Europe 1. Le PSG se prépare à sa demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Face à Dortmund, ce sera demain soir. Premier entraînement en fin d'après-midi aujourd'hui dans l'immense stade du Borussia. 82 000 places. 4 000 supporters parisiens s'y installeront demain. Parmi eux, ces 2 passionnés qu'a rencontré Cyril de la Morinerie.
Oui, Maxime et Victor vont partir ensemble demain à Dortmund. Pas question de voir ce match à la télé, c'est en tribune que Maxime veut vivre ce grand rendez-vous.
On n'a pas hésité une seconde, hein, dès que la billetterie est sortie, on a pris tout de suite notre place. Ça va être une journée historique qu'on ne voulait pas rater.
Ces 2 fans du PSG vont partir de Paris en voiture, durée du voyage un peu plus de 6 heures. Pour l'occasion, Victor va décorer le véhicule.
On va mettre les maillots sur le tableau de bord, les écharpes sur les fenêtres. On est prêt pour supporter le PSG.
Et une fois arrivé au stade, le menu c'est saucisses frites, puis victoire du PSG.
Vu les dernières performances de Dortmund, oui, on espère la victoire. Après, voilà, ça reste un match de Ligue des Champions.
Mais face au mur jaune et ses irréductibles supporters allemands, il sera difficile de se faire entendre. Victor va tout donner.
L'idée, c'est de finir avec plus de cordes vocales et de chanter.
Et Maxime s'échauffe dès maintenant la voix pour tenter de remporter également le match des tribunes.
Après tant d'années de galères et de combats, ou pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Oh, 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 voilà, ça va être magnifique.
Ça va être magnifique.
Oh, ils sont chauds les Parisiens. Ils sont chauds. On va pas manquer ça. Merci Fanny. Merci Marceau et bon réveil avec Europa. Il est 5h09.
Dans un instant, Alexandre, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1.
Ah oui, nous serons aux États-Unis. La presse américaine attend cette réponse de la Cour suprême à cette question. Les villes peuvent-elles, oui ou non, punir les SDF pour le simple fait de dormir dans la rue? D'abord les courses avec Thierry Léger, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau et mon pari gagnant sera le 403
Kind of Kiss, dépendant de l'entraînement classique d'André Fabre, ce fils de Scissor Star vient d'effectuer d'excellents débuts le 7 avril sur l'hippodrome de Longchamp dans le toujours très relevé prix Juigner en se classant bon second et il n'aura qu'à répéter cet après-midi la valeur réalisée ce jour-là pour pouvoir ici l'emporter. Notez bien pour Fontainebleau, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 3, Kind of Kiss.
Merci Thierry Léger. Rendez-vous après le journal de 5h30 sur Europe 1 pour découvrir vos pronostics du Quintet. Très bon début de matinée à tous. Dans quelques minutes, Omblin Roche, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Oui, avec le toit d'une maison en Floride aux États-Unis, transpercée par la chute d'un déchet provenant de très loin, de la Station Spatiale Internationale. Ça a dû faire une sacrée frayeur à cette famille.
Une belle frayeur, oui.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, 5h10, la revue de presse internationale nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Los Angeles. Aviva, qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ?
Alors, la presse américaine attend une décision de la Cour suprême sur les sans-abri. L'agence AP explique que les juges de la Cour vont devoir trancher. Les villes peuvent-elles punir les sans-domicile s'ils dorment dehors ? Le New York Times rappelle que tout est parti de la petite ville de Grants Pass dans l'Oregon, qui a interdit aux sans-abri de dormir dans un parc de la ville. Le quotidien relate qu'une SDF a porté plainte pour traitement cruel et inhabituel et atteinte à ses droits constitutionnels. Mais d'après le Wall Street Journal, la question se pose également dans d'autres villes, conservatrices comme progressistes. Le Los Angeles Times cite l'avocat de la ville de Los Angeles qui estime que pour pouvoir trouver des solutions au problème du sans-abrisme, il faut avoir toute latitude d'agir au cas par cas. Le quotidien reprend également un rapport du département du logement. Sur 10 personnes vivant dehors, 6 sont en Californie. NPR rappelle qu'aux États-Unis, environ 250 000 personnes vivent dans des parcs, dans la rue ou dans leur voiture.
Nous sommes maintenant en Grèce. Avec vous, Clémentine Athanasiadis, vous êtes à Athènes pour Europe 1. Les gros titres des journaux en Grèce ce matin.
6 ans après l'incendie de Mati au nord-est de la capitale qui a fait plus de 100 morts, le tribunal correctionnel d'Athènes a rendu son verdict, écrit le quotidien Ika Themerini. 6 personnes, dont l'ancien chef des pompiers, ont notamment été reconnues coupables d'homicides involontaires, précise le journal. Les responsables sortis libres de l'audience ont été condamnés jusqu'à 5 ans de prison avec sursis et à 40 000 euros d'amende, souligne le quotidien Efsin. Les 15 autres prévenus, parmi lesquels des élus locaux, ont été relaxés. Cet incendie a traumatisé tout le pays et l'annonce du verdict a provoqué l'indignation des survivants et des proches de victimes présents dans le tribunal. Certains ont éclaté en sanglots, rapporte le journal IAVI. Selon le quotidien Ika Themerini, des familles prévoient de faire appel de cette décision.
Et nous voici enfin ce matin en Turquie avec la correspondante d'Europe 1, Jeanne Joulot. Un chiffre ce matin frappe les médias turcs.
Une inflation de 95% en un an pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, soit un chiffre bien supérieur à l'inflation générale de 68%. C'est ce qui a poussé l'économiste Iris Gibré à lancer sur les réseaux sociaux un appel au boycott. Selon elle, les restaurateurs profiteraient d'un mouvement de hausse générale des prix pour augmenter leurs marges de manière démesurée, explique T24. Cette affirmation a été démentie dans On Haber par Ramazan Bingöl. Le président de l'association des restaurants affirme ne pas pouvoir faire autrement face à l'augmentation des coûts. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont appelé à condamner le gouvernement pour sa politique économique plutôt que les restaurateurs. D'après Sunmur, le mouvement a été peu suivi ce week-end à Istanbul et Ankara, mais a bien fonctionné dans le reste de la Turquie.
Merci Jeanne Joulot, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h13.
Dans quelques minutes, les initiatives en France avec vous, Omblin Roche.
Et avec ce matin, une application pour aider à sortir de la dépression.
Europe 1.
D'abord, votre histoire dingue, Anissa Haddadi, elle nous vient du ciel. Des habitants de Floride, aux États-Unis, ont eu la très mauvaise surprise, en tout cas très peur que le ciel leur soit tombé sur la tête.
Ah oui, au sens propre, Alexandre, parce que c'est vrai qu'au-dessus de nos têtes, on n'y pense pas, mais si on peut voir la Lune, et très rarement le Soleil en ce moment, on n'y pense pas, mais le ciel est très, très, très encombré. Le 8 mars dernier, un objet d'environ 1 kg a transpercé le toit d'une maison à Naples, en Floride. Alors, il aura fallu plus d'un mois aux autorités pour définir quel était cet objet tombé du ciel qui a transpercé le toit, plus deux étages, je vous le disais tout à l'heure, avec un jeune homme de 15 ans qui était tout seul à la maison. Les autorités se sont rapprochées de la NASA, évidemment, quand on voit un objet comme ça qui tombe du ciel, qui ressemble à pas grand-chose, à part une grosse masse grise, on appelle la NASA et on leur dit qu'est-ce que ça peut bien être. Donc après plusieurs semaines, presque un mois et demi de recherche, les résultats sont tombés il y a quelques jours. L'objet qui a transpercé le toit de cette maison en Floride est un déchet spatial. Ah. Il s'agit d'une partie de la cargaison de vieilles batteries de déchets relâchés par l'ISS en 2021. Vous imaginez, on est en 2024. L'ISS a relâché cette palette de 2 tonnes 6. Imaginez.
À 2 tonnes 6.
Donc, on est l'ISS. Ils envoient une palette de 2 tonnes 6 de vieilles batteries. Normalement, cette palette doit se détruire
au
moment où elle rentre dans l'atmosphère. Oui. C'est le principe. Alors, elle s'est bien détruite, mais il y a un morceau d'un kilo qui restait. Et qui est
ce ne sont pas les 2 tonnes 6 qui sont tombées.
Non,
Mais malgré tout, ça fait du dégât. Vous dites le toit plus 2 étages.
Le toit plus 2 étages, parce que mine de rien, un objet d'un kilo, mais ça reste quand même des batteries spatiales. Donc c'est un objet très compact,
oui, et puis ça tombe de haut.
Et ça tombe de haut avec la vitesse qui va avec. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que de nombreux déchets de ce type sont fréquemment relâchés et normalement ne doivent faire aucun dégât en entrant dans l'atmosphère. C'est le principe, les scientifiques ont réfléchi à ça. C'est donc maintenant une nouvelle enquête qui commence. L'agence américaine va essayer de comprendre pourquoi ces débris de métaux ne se sont pas détruits comme prévu en entrant dans l'atmosphère.
Est-ce que c'est la première fois que ce phénomène arrive ?
Eh bien non, on n'en parle jamais, mais non, des objets qui tombent. Vous allez voir, je ne vais pas vous rassurer. Des objets qui, comme ça, circulent au-dessus de nos têtes.
À l'orbite de la Terre est très encombrée, oui.
Oui, c'est très encombré. En janvier 97, dans un parc de Tulsa, dans l'Oklahoma, une femme a, par exemple, été touchée à l'épaule. Elle était en train de marcher et bim, une pièce métallique de 15 cm.
Ah, quand même !
Est tombé sur son épaule. Bon, on peut se dire, c'est tombé d'un avion. Non, c'était le réservoir d'une fusée Delta 2. Heureusement, pas de blessés. En 2022, il y a 2 ans, des débris de SpaceX, on en parle souvent de SpaceX, eh bien, des débris ont été retrouvés dans un enclos à moutons en Australie. Pauvre mouton. Bon, normalement, les fragments qui entrent dans l'atmosphère tout de suite sont détruits à cause du frottement de l'air. Le choc est tellement fort que tout devient poussière, en fait. Eh oui, mais parfois, ça ne marche pas. Aucune victime de ces chutes d'objets spatiaux n'est à déplorer. Mais avec ce nouvel accident, il y a quelques semaines en Floride, la NASA va certainement devoir maintenant changer ses pratiques. On commence à s'inquiéter. Et il va vraiment falloir s'intéresser au problème. Depuis le début de l'exploration de l'espace, c'était en 1957, avec le lancement du premier satellite Sputnik 1, le ciel est en train de devenir une immense poubelle. D'ailleurs, une astrophysicienne française, Fatoumata Kebe, a déjà tiré la sonnette d'alarme. C'était l'année dernière, dans le journal Géo, où elle disait « Nous sommes en train de faire dans l'espace les mêmes erreurs que sur Terre ».
Non, chute de batterie spatiale, le parapluie ne suffira pas. Hein. En tout cas, on sort tous les jours avec son parapluie pour se protéger de la pluie. Vous allez nous le confirmer encore
dans une dizaine de minutes,
Anissa Haddadi. Merci Anissa.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h17.
Le journal permanent, Fanny Marceau.
Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain, annonce du parquet après la levée de sa garde à vue. La star de 75 ans devra répondre des plaintes de 3 femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles commises entre 2014 et 2021. À Châteauroux, l'adolescent de 15 ans, auteur présumé des coups de couteau qui ont tué Mathis, a été mis en examen pour meurtre hier soir et placé en détention provisoire. Sa mère, également mise en examen du chef de violence volontaire pour avoir asséné des gifles à la victime, a été placée sous contrôle judiciaire. Les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan, convoquées aujourd'hui par les enquêteurs de la police judiciaire pour répondre à des accusations d'apologie du terrorisme après un communiqué du groupe LFI publié le 7 octobre après les massacres du Hamas en Israël. Un rassemblement pour les soutenir est prévu à 8h30 près du tribunal de Paris et des locaux de la police judiciaire. Et puis le football et le PSG qui se préparent à sa demi-finale aller de Ligue des Champions. Ce sera demain soir face à Dortmund. Premier entraînement en fin d'après-midi aujourd'hui pour les Parisiens dans l'immense stade du Borussia, 82 000 places.
Europe 1.
Merci Fanny Marceau. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 5h30 dans une dizaine de minutes. Juste avant, à suivre un beau réveil en musique. On écoute qui ce matin ?
La blonde platine légendaire Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie avec Call Me.
Très bon début de journée ce mardi matin sur Europe 1, 5h19, les initiatives en France. On vous présente aujourd'hui une nouvelle application d'aide aux victimes de troubles dépressifs.
Bonjour David Caligari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Avec Nicolas Baudreau, vous avez lancé l'application Phil à Nanterre l'an dernier. Une application, David Caligari, pour aider à sortir de la dépression. On a besoin de vous pour comprendre. Expliquez-nous.
Oui, je peux comprendre que vous avez besoin de moi, c'est pas si évident de prime abord.
Mais oui.
Alors c'est une application, comme vous l'avez dit, qui va vous permettre de faire une autothérapie D'accord. qui est fondée sur ce qu'on appelle les TCC. Alors c'est un acronyme un petit peu barbare au début, mais que, quand on le connaît, est beaucoup plus limpide. C'est les thérapies comportementales et cognitives, donc qui vont jouer sur le comportement et sur la façon de penser. On a fait ce choix pour deux raisons, parce que les TCC, elles ont deux avantages majeurs. Le premier est que c'est une variété de thérapies qui est digitalisable. Donc déjà, ça, c'est vraiment pas mal quand on veut faire une application. Et la deuxième grande qualité des TCC, c'est que c'est aujourd'hui le type de thérapie qui est le plus étudié et qui présente les meilleurs résultats cliniques pour beaucoup de pathologies, en particulier pour la dépression.
Alors, l'automédication, c'est pas la même chose, mais l'automédication est plutôt décriée, David Caligari. Alors, l'autothérapie, c'est avec un accompagnement, avec un suivi.
Alors, c'est vraiment un stand-alone, c'est vraiment quelque chose que vous faites seul chez vous.
D'accord.
Nous, on n'a pas forcément vocation à se substituer à un psychothérapeute. Par contre,
D'accord.
ce qu'on a constaté et ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès aux thérapies, pour plein de raisons, parce que il y a une pénurie de psychothérapeutes aujourd'hui, qu'on attend 1, 2, 3, 4 mois pour avoir accès à un psychothérapeute, et qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe ? On souffre, donc ça serait quand même bien d'avoir des solutions alternatives. Il y a aussi plein de gens qui ne vont pas suivre une thérapie parce que c'est trop cher. Des gens qui se sentent stigmatisés s'ils vont voir un thérapeute. Il y a encore pas mal de fausses idées sur la psychologie, la psychothérapie. Donc en fait, nous, notre solution, elle va offrir quelque chose à toutes ces personnes-là. Les personnes qui n'ont pas les moyens, les personnes qui n'ont pas envie d'attendre, les personnes qui ont peur d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute.
Vous dites, Phil est un soutien numérique destiné aux patients souffrant de dépression légère à modérée pour aller mieux, pas à pas. Comment ça marche alors ?
Alors, ça marche, on va dire, avec deux grands volets. Un volet qui est théorique et un volet qui est pratique. Le volet théorique, on va vous expliquer un petit peu tout sur la dépression. Qu'est-ce que c'est une dépression ? Pourquoi on a une dépression ? Comment se sortir d'une dépression ? Pourquoi les thérapies comportementales et cognitives marchent ? On vous l'explique un petit peu concrètement. Quels sont les chiffres ? Que vous n'êtes pas tout seul. Qu'aujourd'hui, la dépression, c'est 15 à 20% de la population qui a été, qui est ou qui sera dépressif.
Et ensuite, il y a le concret, les exercices.
Exactement. Donc, dans la partie théorique, on vous explique quels exercices il va falloir faire à quel moment. Les exercices, il ne faut pas les faire dans n'importe quel ordre. Il faut y aller petit à petit, justement, quand on est dépressif. Ben, on manque d'énergie, on manque d'allant, on manque de désir de faire des choses. Donc, il faut y aller un petit peu doucement, de la bonne façon. C'est aussi là qu'intervient l'expertise des thérapeutes ou l'expertise de Phil. Ne pas faire n'importe comment à n'importe quel moment. Et la partie pratique, effectivement, quand on vous a expliqué quel exercice faire à quel moment, à un moment, il faut faire des exercices. Comme quand le kiné vous dit de faire des exercices pour renforcer votre cheville, il vous l'explique, mais après, il faut le faire.
On parle de l'application Phil sur Europe 1 avec vous, David Caligari. Grâce à votre application, vous estimez que l'utilisateur sortira de sa dépression en 3 à 6 mois. C'est rapide.
Exactement. Oui, c'est assez rapide. Alors évidemment, chacun est différent, c'est des estimations, mais aujourd'hui, les thérapies comportementales et cognitives, effectivement, en général, se règlent en 3 à 6 mois.
Vous l'avez précisé un petit peu plus tôt, mais insistons quand même sur ce point. L'idée, c'est de ne pas se passer d'un thérapeute, d'un médecin psychiatre, si le besoin s'en fait sentir. Vous ne substituez pas.
Ce à quoi on ne se substitue absolument pas, c'est le médecin, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre le psychiatre et le psychothérapeute.
Absolument.
Alors nous, vraiment, alors là, le médecin, pas du tout. D'ailleurs, on recommande aux gens d'avoir eu un diagnostic d'un médecin, que ce soit d'un généraliste ou d'un psychiatre avant, pour vraiment valider un petit peu que vous êtes effectivement dépressif, que c'est pas une déprime passagère, qu'il n'y a pas une autre cause sous-jacente, par exemple, liée à un médicament, liée à un déséquilibre hormonal. Donc le diagnostic, c'est pas nous. Il faut être allé voir un médecin avant. Par contre, là où on peut venir en support, en complément, c'est pour la partie thérapie, qui elle est effectuée par des psychothérapeutes qui sont parfois médecins, mais pas forcément, mais qui sont en général titulaires d'un diplôme en psychologie et qui ont suivi la formation pour être psychothérapeute.
L'application Phil est payante. Combien coûte-t-elle ?
Alors il y a une version gratuite quand même. En gros, la version gratuite, ça va être toute la partie théorique. Ce qui vous permet malgré tout de faire des exercices avec un papier et un stylo chez vous. Et ce qu'on va faire payer, pour les gens qui veulent un petit peu se simplifier la vie, ce sont les outils pour faire des exercices directement sur l'application. Ce qui va vous permettre de les faire un petit peu n'importe où, dans les transports, chez vous, entre deux rendez-vous. Et puis surtout de tout centraliser, de rien perdre, de l'avoir toujours à portée de main. Et là, ça va dépendre de l'abonnement que vous choisissez, mais notre abonnement le moins cher, c'est si vous le prenez pour un semestre, qui est donc théoriquement la durée la plus longue pour pouvoir s'en sortir. Et là, c'est moins de 30 euros. Donc, ça revient à moins de 5 euros par mois.
Concernant la prise en charge par assurance maladie, par les mutuelles, ce sera possible ? C'est un chantier en ce moment ?
Alors, on espère. Il y a certaines personnes qui se chargent des dialogues avec le gouvernement. Par exemple, je pense au collectif Mental Tech, mais ce n'est pas les seuls.
Oui.
Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de thérapies digitales qui sont remboursées par le gouvernement. On est un petit peu à la traîne là-dessus, puisqu'en Angleterre ou en Allemagne, par exemple, ce n'est pas le cas. Et il y a des dispositifs qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Mais en France, hélas, pas encore.
Merci beaucoup, David Caligari. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'application Feel, qui s'est donné pour mission de rendre la thérapie contre la dépression accessible. Bonne journée.
Merci.
Europe 1, bonjour.
5h-7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1, 5h25. N'oubliez pas votre rendez-vous tous les soirs avec la libre antenne d'Europe 1 à partir de 22h15. Du lundi au jeudi, vous êtes avec Olivier Delacroix et son écoute bienveillante. Du vendredi au dimanche, vous vous confiez à Valérie Darmon.
Oui, un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé.
Dans moins de 5 minutes maintenant, les infos avec Christophe Lamarre, mais d'abord Omblin, on écoute Blondie.
Oui, et le succès de l'année 1980 quand Blondie réconcilie deux camps opposés qu'on imaginait irréconciliables et pourtant vous l'entendez, le rock et le disco, c'est Call Me. Bon réveil sur Europe 1. Producteur italien Giorgio Moroder, à qui on doit par exemple Love to Love You Baby de Donna Summer, à la musique de Flashdance, aussi le film Call Me de Blondie sur Europe 1 en 1980. C'est un extrait de la bande originelle du film American Gigolo avec Richard Gere.
Bienvenue à tous sur Europe 1, votre prescription culture dans la prochaine demi-heure à 6h10, le mardi, et l'actu des jeux vidéo, Ombline.
Caroline Speller a choisi comme jeu vidéo la licence de simulation de tennis Top Spin qui revient dans une nouvelle version.
Qu'est-ce qu'on lit avec Nicolas Caro ?
Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrian, un récit sur les liens familiaux, les souvenirs, l'amour, la transmission. Dans un quart d'heure, votre invité, Alexandre Lemaire.
Avec cette alerte au choléra à Mayotte, le premier cas est arrivé des Comores, d'où arrivent régulièrement des immigrés clandestin. Alors il va falloir vacciner très vite à Mayotte, mais l'archipel ne peut déjà plus faire face. L'hôpital est saturé. Vous allez entendre l'inquiétude, la colère même, et l'appel à l'aide d'Estelle Youssoufa, la députée Liotte de Mayotte, sera avec nous à 6h20 après le journal sur Europe 1. Le temps pour ce mardi, Anissa Haddadi prévoit encore de nombreuses averses dans la journée.
Oui, des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc, il pleut en passant par la région parisienne, le centre, l'Auvergne, le Limousin, des pluies tout au long de la journée. Attention, dans l'Est, la matinée est calme, mais au fil des heures, les orages arrivent et on attend des orages avec de la grêle, notamment sur la Bourgogne. À l'Ouest, c'est un petit peu plus calme sur la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne, avec de beaux rayons de soleil ce matin. Mais cet après-midi, une nouvelle perturbation arrive, ce qui annonce l'arrivée de nouvelles pluies pour demain. Les températures 13 à 26 degrés cet après-midi.
Merci Anissa. Bon réveil à tous avec Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
À la une de l'actualité, la Sorbonne évacuée par les forces de l'ordre. Le gouvernement ne veut pas laisser s'enquister le mouvement pro-palestinien dans les universités. Mouvement pris plusieurs fois en flagrant délit de flirt avec l'antisémitisme, mais soutenu par la France insoumise. Mathilde Panot et Rima Hassan sont convoqués aujourd'hui par la police pour apologie du terrorisme. C'est un succès à plus de 100 milliards d'euros. C'est aussi l'encours du plan épargne retraite en France, des résultats que Bercy juge exceptionnels. Plus de 10 millions de Français désormais possèdent un PER. Et puis l'autoroute A13 Paris-Normandie va rouvrir, mais dans un seul sens, et d'ici à 2 semaines, si tout va bien. Le chantier d'un parking voisin est soupçonné d'être responsable des fissures qui ont entraîné la fermeture de l'A13. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Appuyez sur le bouton stop avant qu'il ne soit trop tard. Le Premier ministre a donc ordonné l'évacuation de la Sorbonne hier. La faculté parisienne, brièvement occupée par une vingtaine de tentes de militants pro-palestiniens comme Sciences Po la semaine dernière. Mouvement de blocage et de soutien à la Palestine encouragé par des élus de la France insoumise. Mouvement accusé aussi de laisser libre cours à l'expression des passions antisémites.
Et c'est dans ce contexte inflammable que deux figures de la France insoumise sont attendues au commissariat.
Et pas n'importe lesquelles. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Rima Hassan, militante pro-Palestine, elle figure sur la liste des insoumis aux européennes. Elles vont devoir répondre toutes les deux d'une même accusation, apologie du terrorisme. Ce qui leur est reproché, c'est leur complaisance vis-à-vis des terroristes du Hamas. Cette convocation, LFI compte bien sur la rue pour la contester. Alexis de La Fontaine.
Rendez-vous est donné ce matin devant le siège de la police judiciaire à Paris. Les insoumis appellent tous leurs militants à venir mettre la pression aux enquêteurs contre ces convocations en espérant obtenir gain de cause grâce à leurs protestations comme dans les universités. Et pour mobiliser ses partisans, Mathilde Panot utilise la situation humanitaire à Gaza.
À chaque fois que des voix essayent de s'élever pour porter la question de la paix, soit le gouvernement répond par une répression alors que la jeunesse essaie justement de porter la voix de la liberté, ou alors elle répond par des apologies du terrorisme, elle répond par des annulations de conférences. Et la dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des années sur la question vise à une seule chose, à faire taire les voix pour la paix.
Alors le parti de Jean-Luc Mélenchon serait-il victime de censure ? La France insoumise cherche plutôt à exploiter ses démêlés judiciaires pour entretenir sa stratégie de victimisation.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
Europe 1, 5h32, ce n'est plus très loin d'être le placement préféré des salariés et futurs retraités, le PER, le plan épargne retraite, à le vent en poupe.
Et cet acronyme vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, plus de 10 millions de Français détiennent un plan d'épargne retraite, produit de retraite par capitalisation issu de la loi Pacte de 2009. Selon les derniers chiffres communiqués par Bercy, le PER vient de franchir la barre des 100 milliards d'euros d'encours. Pourquoi un tel succès, Margot Faudéré ?
Eh bien d'abord parce qu'il offre des avantages purement techniques. Contrairement à ses prédécesseurs, le plan d'épargne retraite peut être liquidé de différentes manières, soit en percevant un revenu régulier tout au long de sa vie, soit en récupérant son épargne au moment du départ à la retraite. C'est ce qu'on appelle une sortie en capital. Surtout, le PER est très intéressant en termes de fiscalité, notamment pour les Français aux revenus les plus élevés, explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
C'est la déduction fiscale. Ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu peuvent déduire les sommes investies dans leur PER et donc cela, évidemment, constitue un argument choc pour le développement de ce type de produit.
Au-delà de ces avantages techniques, un autre facteur, plus culturel cette fois-ci, explique le succès fou du PER. C'est l'inquiétude des Français. Près de 75% d'entre eux pensent que leurs pensions ne leur permettront pas de vivre correctement à la retraite. Alors certains constituent leur propre épargne en mettant de l'argent de côté, que ce soit sur un PER, une assurance vie ou en investissant dans l'immobilier.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Le meurtrier présumé de Matisse à Châteauroux mis en examen pour meurtre et écroué, la mère de l'adolescent de 15 ans est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau. Gérard Depardieu sera jugé à l'automne pour agression sexuelle. Procès en correctionnel après la plainte de deux femmes qui auraient été agressées sur le tournage des Volets Verts en 2021. Convocation remise au comédien hier à l'issue de sa garde à vue.
Des nouvelles de l'Ouest parisien, Christophe. Sur la route et de l'autoroute A13, cette autoroute de Normandie dont une portion entière entre la porte d'Auteuil et Vaucressin est fermée. On a une date de réouverture et le nom du probable responsable de sa fermeture.
Et réouverture partielle dans le sens Province-Paris au seul véhicule léger à partir du samedi 11 mai. Attention, si les conditions de sécurité le permettent. Pour la réouverture complète, il faudra attendre. Aucun délai fixé vu la nature des réparations à effectuer. Les autorités qui pointent du doigt un responsable, oui, le chantier du Grand Musée de Saint-Cloud en contrebas de l'autoroute. Guillaume Dominguez.
Oui, celui du musée du Grand Siècle et plus précisément le chantier de son parking souterrain situé pile sous le viaduc de l'autoroute A13. Selon nos confrères du Canard Enchaîné, un trou de plus de 5 mètres de profondeur a été creusé à l'aplomb du mur de soutènement de l'axe autoroutier. Un édifice long de 200 mètres et haut de 15 mètres bâti dans les années 30 qui ne tient que par son propre poids. C'est ce chantier qui serait à l'origine d'un glissement de terrain qui aurait entraîné un affaissement du bras de l'A13. Plusieurs experts dépêchés sur place après la découverte des fissures ont constater que le mur avait avancé de 6 cm, un phénomène qui pourrait entraîner l'effondrement ou le basculement de l'ouvrage. Alors si le mur consent à rester debout, les ingénieurs devront stabiliser et renforcer l'édifice avant la réouverture totale de l'autoroute. Des travaux qui pourraient durer plusieurs semaines. Dans un communiqué, la direction des routes d'Île-de-France annonce tout de même une reprise partielle du trafic. À partir du 11 mai, seuls les véhicules légers pourront emprunter l'axe uniquement dans le sens Province-Paris.
Explication Guillaume Dominguez.
Bon, en tout cas, la circulation s'annonce fluide, Christophe, autour de Paris et des grandes villes en cette veille de pont du 1er mai. Les producteurs de muguet, quant à eux, sont déjà dans les cultures à l'affût des voleurs de brins.
Bah oui, 1er mai égale fête du travail égale muguet. Non, vous n'y échapperez pas dans la rue, le métro, sur la place du village. Bref, partout, sauf que le muguet et ses clochettes parfumées suscitent bien des convoitises. Dans le Nord, les producteurs luttent contre un fléau. Les voleurs de muguet, c'est le cas de Bruno, propriétaire des Cerfleuries à Lefrancouc. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
C'est un trésor sous haute surveillance. 140 000 pieds de muguet cultivés sous serre ici depuis 8 semaines par Bruno Houbert. Une production qu'il a fallu sécuriser pour éviter les cambriolages.
On fait très attention à tout ce qui part, tout ce qui rentre, qui arrive, pourquoi, pour quelle chose. Tout est fermé, on a des caméras de surveillance. Elles sont à l'extérieur, dans les établissements. On évite de dire où on plante du muguet. Quoi. Et c'est surtout les derniers moments, comme maintenant. Quoi.
Car à l'approche du 1er mai, il a même fallu parfois renforcer le dispositif.
On avait vu qu'on allait être cambriolés. On avait des gens la journée qui tournaient. On a pris des vigiles pour une nuit. C'était incroyable quand même. Hein.
Un muguet volé, objet de trafic souvent juteux.
Compte tenu du prix et du peu d'encombrement, c'est facile à prendre une centaine de pots. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais une centaine de pots à 5-6 euros minimum, ça vous fait tout de suite 600 euros. Quoi, hein. C'est pour ça que c'est très convoité.
Alors méfiance, prévient le producteur, un muguet en pot vendu sur le trottoir peut être d'origine suspecte.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète des pots de muguet avec une collerette, etc., et qu'on le vende sur la rue. C'est qu'on l'a soit volé, soit acheté dans un marché particulier. Quoi.
D'où l'importance, selon Bruno Aubert, de mieux contrôler la vente à la sauvette. À Lefrancouc, Lionel
Gougelot, Europe 1.
Les sports demi-finale aller de la Ligue des Champions. Premier match ce soir, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi à 21h, ça promet. C'est une magnifique rencontre en perspective. En attendant le PSG.
Demain soir, évidemment. Merci Christophe Lamarre et bon début de journée avec Europe 1. Il est bientôt 6h20. Dans deux minutes, c'est le jour où Omblin Roche, un moment d'histoire avec les archives d'Europe 1.
Oui, et on va revivre, mon cher Alexandre, la victoire de Céline Dion lors du concours de l'Eurovision. C'était en 1988.
D'abord, les pronostics du Quintet à 5h38. Bonjour Thierry Léger. Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est un quintet marathon qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau. Un handicap long de 3000 mètres et priorité aux spécialistes de ce type de parcours nécessitant impérativement de la tenue avec les numéros 12 Turania et 15 Canoine, respectivement deuxième et cinquième d'un quintet similaire le 26 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, disputé justement sur la distance qui nous intéresse. Et force est de reconnaître que jugé sur cette performance, ils devraient pouvoir tous les deux conclure une nouvelle fois à l'arrivée. On leur opposera les numéros 10 Winterland, transparente dans ce quintet référence alors qu'elle était grandissime favorite mais qui mérite d'être reprise en confiance, ayant très bien retravaillé depuis. 13 My Kiss, expérimenté et ayant souvent bien réussi sur cet hippodrome de Fontainebleau, et 3 Bel et Bien, à suivre d'emblée pour sa première tentative à ce niveau, d'autant plus qu'elle dépend de l'entraînement de Paul de Chevigny, dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer actuellement. Enfin, les numéros 16 Trick of the Mind, 4 Wood City et 9 Cherki compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 15, 10, 13, 3, 16, 4 et 9.
Un pronostic qu'on retrouve dès à présent sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Bien ce week-end.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. Bon réveil, 6h20, le jour où l'histoire racontée à travers les archives d'Europe 1.
Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour.
Bonjour à tous.
Le jour où en chanson ce mardi matin, ça s'est passé aussi un 30 avril. En 1988, Céline Dion remporte l'Eurovision. Elle a alors seulement 20 ans.
Oui, ce soir-là, dans une robe dorée, Céline Dion chante le titre Ne partez pas sans moi, sous les couleurs non pas du Canada, mais de la Suisse.
Ne partez pas.
Elle n'a que 20 ans, mais est déjà une star au Québec. Cette victoire à l'Eurovision va la rendre célèbre en Europe. Mais en France, elle est déjà connue du public, en particulier lorsqu'elle est passée dans la célèbre émission de Michel Drucker, Champs-Élysées. Et il l'invite ensuite sur Europe 1 en 1984.
Déjà, j'ai un fait pour les Québécois en général, mais pour elle en particulier, parce que c'est la plus jeune de la nouvelle vague, et puis elle chante très bien.
Mon ami m'a quitté, je vous le dis, ça devait arriver.
Céline Dion, qui sera peut-être sur une scène parisienne à la rentrée prochaine, ce serait bien.
J'espère bien. Et Céline Dion fait effectivement, au milieu des années 80, la première partie de Patrick Sébastien à l'Olympia pendant plus d'un mois. Ce qui la révèle, c'est sa chanson D'amour ou d'amitié. Elle devient la première Canadienne à obtenir un disque d'or en France, soit 500 000 exemplaires vendus. En 1985, elle a à peine 17 ans.
Pas encore 17 ans.
16 ans et demi.
Et elle est à nouveau l'invitée de Michel Drucker sur Europe 1.
On va faire des tournées, et puis ma première tournée, ça va être au Québec. 23 musiciens avec des danseurs. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est d'avoir contact avec les gens. J'aime beaucoup ça.
Céline Dion a une discipline de fer pour garder sa voix intacte. C'est ce qu'elle confie à Jean-Yves Chaperon sur Europe 1 en 1996.
Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, I don't party. Dans chaque journée de congé, je ne parle pas, je fais la mue totale.
Pour économiser la voix. Pour
Le meilleur repos, c'est bien sûr de ne pas parler du tout.
Et quand, dans les années 90, on la compare à Mariah Carey ou à Whitney Houston, voici ce qu'elle répond.
Je veux pas être la meilleure de tout le monde, je veux être la meilleure de moi-même. Mais mon modèle, c'est ma mère. C'est la plus grande artiste que je connaisse.
Avec Jean-Jacques Goldman, Céline Dion fait aussi en 1998 l'album S'il suffisait d'aimer, 4 millions d'exemplaires vendus.
Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis.
Et on joue à présent avec Céline Dion, avec Le Jour Où, et pour vous offrir un cadeau exceptionnel. Vous repartez partez chaque matin cette semaine, donc tous les jours, hein, avec une carte cadeau de 500 euros valable dans les hôtels et restaurants Territoria. Territoria, c'est une communauté d'établissements présidée par Alain Ducasse, s'il vous plaît, qui regroupe les plus beaux hôtels d'Europe. Plus d'une centaine de tables étoilées, vous allez vous régaler, mes amis.
J'ai faim.
430 maisons. Et en plus, Alexandre, vous pourrez choisir la destination de votre choix sur territoria.com.
Alors, il vous faut répondre, chers auditeurs, à la question du jour pour tenter votre chance. Avec quel titre Céline Dion remporte-t-elle l'Eurovision en 1988? Réponse A, Ne partez pas sans moi. Réponse B, D'amour ou d'amitié.
Vous tentez votre chance par SMS en envoyant évasion au 739-21, 2x75 centimes hors coût du message, et vous répondez à la question.
Allez, bonne chance à tous. À suivre sur Europe 1, votre rendez-vous culture, le programme de ce matin, Ombline.
Le jeu vidéo de simulation de tennis, Top Spin, et le roman de Pierre Adrian, Que reviennent ceux qui sont loin.
5h-7h,
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
Europe 1, il est 5h43.
L'inquiétude grandit cette semaine à Mayotte. Alors pas pour des raisons sécuritaires cette fois-ci, mais pour des raisons sanitaires, puisque cette région d'outre-mer, située dans l'océan Indien, fait face à une multiplication brutale des cas de choléra dans l'archipel.
Et vous en parlez sur Europe 1 avec votre invité, Alexandre Estelle Youssoufa, et députée Lyotte de Mayotte.
Bonjour Estelle Youssoufa.
Bonjour à vous.
Première question d'abord, quelle est la situation ce matin à Mayotte? Est-ce que l'on connaît le nombre de cas de choléra recensés?
L'ARS de Mayotte recense 26 cas officiellement, mais il faut comprendre que ces cas ont été recensés suite à une campagne d'investigation dans ce qui semble être le foyer pour l'instant dans l'île. C'est à Kungu. C'est au nord de la capitale, c'est une zone très densément peuplée, avec beaucoup de bidonvilles, et c'est une ville qui est connue aussi pour avoir une très forte concentration de population comorienne étrangère en situation irrégulière. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que l'ARS jusqu'à présent avait un nombre faible de cas, c'était des personnes qui se présentaient ou qui alertaient les autorités en disant « je pense être malade » et puis le cas est testé. Or, on est passé en quelques jours de 13 à 26 cas parce que l'ARS est allée sur une zone où il y avait beaucoup de cas et elle a fait des contrôles tous azimuts.
Oui, vous parlez d'un foyer. Est-ce que c'est un foyer épidémique? Est-ce qu'on peut parler d'épidémie de choléra à Mayotte?
Moi, j'ai peur qu'on soit à la naissance d'une épidémie de choléra à Mayotte, effectivement. Parce que ce que révèle... les chiffres publiés par l'ARS, c'est qu'il y a vraisemblablement beaucoup plus de cas de choléra que ce qui est officiellement annoncé. Parce que jusqu'à présent, c'était seulement les personnes qui se pensaient malades qui allaient se présenter aux autorités. Et là, quand on voit que l'ARS est plus proactive et qu'elle va sur le terrain tester les personnes, bah là, elle en trouve beaucoup plus.
Oui.
Et comme on parle d'une zone qui est une zone de bidonville, qu'à Mayotte, il y a toujours des coupures d'eau, et que le choléra prospère quand il n'y a pas d'eau propre.
C'est une maladie, c'est la maladie de la pauvreté, hein, c'est ce que rappelle l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, hein, qui touche les personnes qui n'ont pas accès, comme vous le dites, à l'eau potable, et c'est à Youssoufa.
Oui, alors en fait, il faut comprendre qu'à Mayotte, la crise de l'eau, on en parle moins, mais il y a toujours des coupures d'eau un jour sur deux à Mayotte.
À cause d'une sécheresse historique, il faut le rappeler, ce qui n'arrange rien, effectivement.
À cause d'un manque d'infrastructures, à cause d'une sécheresse. Et donc, en fait, c'était l'un des risques sanitaires identifiés lors de la crise de l'eau. Et on voit qu'avec un effet retard, cette épidémie de choléra est en train de naître à Mayotte. C'est évidemment des cas importés, hein. Ça arrive des Comores voisines qui ont...
Donc ça vient des Comores, ça c'est établi, on le sait, Estelle Youssoufa.
C'est établi, hein. Les Comores ont une grosse épidémie de choléra, il y a plus de 3000 personnes qui sont actuellement malades aux Comores, et dès le début, l'ARS a recensé les cas importés, donc qui sont arrivés illégalement par Kwasa-Kwasa, des malades du choléra comoréens qui sont rentrés à Mayotte.
Kwasa-Kwasa, on rappelle, Estelle Youssoufa, pour les auditeurs d'Europe 1, pardonnez-moi, Kwasa-Kwasa, il faut rappeler, hein, on n'est pas familier de ces termes en métropole, ce sont bien les embarcations, c'est ça qui font passer des migrants illégalement des Comores à Mayotte, hein.
Absolument. Et en fait, l'épidémie de choléra a démarré en Afrique continentale. Elle est arrivée aux Comores. Et maintenant, elle est arrivée à Mayotte, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à se voiler la face. Il y a le choléra à Mayotte et les cas doublent de jour en jour. Donc, si vous voulez, c'est très inquiétant, parce que Mayotte est un désert médical. On sait que les autorités ont demandé des renforts en soignant, mais c'est quand même très grave. La question du stock en vaccination, est-ce qu'il faut faire une vaccination massive de l'ensemble de la population? Je pense que c'est nécessaire.
Il faut vacciner très vite, parce qu'il y a un vaccin. Il y a un vaccin contre le choléra, il faut le rappeler. Oui, oui.
Et il y a des doses à Mayotte, mais certainement pas assez pour l'ensemble de la population. Donc il faudrait vacciner en urgence. Parce qu'il y a toujours des coupures d'eau à Mayotte, il y a des bidonvilles, des zones qui sont pas très insalubres et très densément peuplées.
Oui.
Donc tous les ingrédients pour que l'épidémie de choléra explose à Mayotte et en fait
et devienne hors de contrôle.
La colère de la population, c'est que cette importation du choléra s'est faite alors que le gouvernement nous avait promis qu'il protégeait les frontières. Donc savoir que le choléra est rentré par des migrants qui sont entrés illégalement par bateau à Mayotte et que ce choléra est en train de prospérer dans les bidonvilles avec une population migrante qui est très vulnérable, très fragile, qui est pauvre, qui n'a pas accès à l'eau et qui s'entasse dans des zones insalubres faisant courir un risque sanitaire à l'ensemble de la population, c'est une situation qui est très très grave à Mayotte. Très inquiétante.
On comprend votre inquiétude et votre colère même, hein, Estelle Youssoufa, ce matin sur Europe 1. Vous parlez de la nécessité de vacciner très vite, vous disiez que Mayotte était un désert médical. Que faut-il comprendre? Vous n'avez pas les moyens sur le plan sanitaire, des hôpitaux, du personnel, de faire face à Mayotte, à ces cas de choléra?
Mayotte, c'est en réalité quasiment un demi-million d'habitants. Il y a quelques dizaines de médecins privés, sinon toute la santé repose sur un seul hôpital, qui est en plan blanc depuis des mois, c'est-à-dire qui est quasiment effondré parce que beaucoup de soignants sont partis.
Oui, et donc le système de soins est saturé.
On est en très très grande difficulté, il y a une offre médicale qui est très pauvre par rapport aux besoins. Et en plus, ce qui nous inquiète, c'est que là actuellement Mayotte est en vacances scolaires. Et ce que les familles redoutent, c'est que les enfants retournent à l'école pendant que l'épidémie de choléra est en train d'exploser. Parce que vous savez que toutes les écoles à Mayotte n'ont pas de toilettes, et quand elles ont des toilettes, elles n'ont souvent pas d'eau. Donc en fait, ça pose un sujet de sécurité sanitaire, de santé publique. Et vous savez, moi je remercie Europe 1 qui parle régulièrement de Mayotte, mais on passe de crise en crise. Et là vraiment, c'est une crise qui est à bas bruit. On a eu quelques cas par-ci par-là de temps en temps et on voit que quand l'ARS va sur le terrain et teste tout le monde, ben en fait,
l'Agence régionale de santé, oui.
Une circulation du choléra qui nous inquiète parce qu'il y en aurait donc à Kungu, le foyer principal, mais aussi dans d'autres zones de l'île. Et ça, c'est très inquiétant.
Vous en appelez à l'État ce matin sur Europe 1, Yestel Youssoufa.
Ah, il faut absolument que le gouvernement s'empare de la question et réponde de manière beaucoup plus rapide avec une vaccination massive de la population et puis l'envoi de renforts au niveau des soignants parce qu'on a le choléra qui est en train de prendre de l'ampleur, un seul hôpital qui n'est pas en capacité de faire face et puis toutes les autres maladies habituelles sur l'île. Donc nous on est très très inquiets à Mayotte.
Les cas de choléra se multiplient à Mayotte, importés, vous nous l'avez confirmé, de l'île du pays voisin des Comores, d'où provient une vague d'immigration illégale. Merci Estelle Youssoufa, je rappelle que vous êtes députée Liotte de Mayotte. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1. Dans un instant, l'actualité des jeux vidéo, ce sera juste après le journal permanent, à 6h10, Christophe Lamarre.
La Sorbonne évacuée par les forces de l'ordre à la demande du Premier ministre, le gouvernement déterminé à ne pas laisser s'enquister le mouvement pro-palestinien dans les universités françaises. Gérard Depardieu sera jugé à l'automne pour agression sexuelle, procès en correctionnel après la plainte de deux femmes qui auraient été agressées sur le tournage des Volets Verts en 2021. Convocation remise au comédien hier à l'issue de sa garde à vue. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Matisse mis en examen pour meurtre et écroué. On rappelle qu'il est âgé de 15 ans. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau. L'autoroute A13 Paris-Normandie rouvrira dans un seul sens d'ici deux semaines si tout va bien. Le chantier d'un parking voisin est soupçonné d'être à l'origine des fissures qui ont entraîné la fermeture de l'A13.
Merci Christophe Lamarre. Le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, 5h-7h, bienvenue si vous arrivez juste, il est 5h52 et c'est votre rendez-vous culture.
Et on commence d'abord avec un bon livre. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Vous nous proposez ce matin, Nicolas, un roman disponible au format poche.
Que reviennent ceux qui sont loin, l'auteur Pierre Adrian. Le personnage principal, en quelque sorte, c'est une maison de famille, une maison dans le Finistère Nord, ce genre d'endroit pour ceux qui ont de la chance, où se retrouvent chaque été cousins, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents. Et ça va, ça vient, c'est un peu le bazar, mais c'est chouette. Et le roman raconte l'histoire d'un type, une trentaine d'années, sans doute l'auteur, qui est parti. Il n'est pas parti fâché, il n'a pas coupé les ponts, c'est juste qu'il a voyagé loin, plusieurs étés de suite. Et donc, il a manqué 8 étés là-bas, dans la maison de famille cette année. Il revient et il raconte.
Et que raconte-t-il alors ?
Il raconte les vacances, l'été, il se souvient du passé, du mois d'août, qui est celui qui ressemble le plus à la vie, dit-il, avec l'enthousiasme, l'ennui et la faim, F-I-N. Il raconte les feux d'artifice du 15 août, l'ennui de l'enfance, les cache-cache dans le grenier, l'odeur du pain grillé le matin, l'adolescence, les aventures, le premier baiser sur la plage elle-même, le pique-nique. Mais maintenant, il a 30 ans et c'est lui le grand. Et donc, il observe différemment. Et il y a les petits cousins, les neveux, le petit Jean, par exemple, 6 ans, trop chouette. Le narrateur est un peu blasé. Maintenant, il regarde ça comme si tout ça était révolu. Et puis, petit à petit, il se reconnecte au présent, au mois d'août. Et un drame arrive sans que l'on s'en doute. Et ça vous déchire le cœur.
Bon, c'est un livre nostalgique alors ?
Nostalgique un peu, mais sans poussière. Poétique, surtout beaucoup de tendresse. Et qui va au-delà d'une chronique des vacances d'été. Bien au-delà, 30 ans de toute façon, c'est un peu jeune encore pour les souvenirs mélancoliques. Le titre, Que reviennent ceux qui sont loin, c'est en fait un extrait d'un livre de Césaré Pavézé, Le métier de vivre, placé en exergue du roman. Et je vous la lis parce que j'ai rarement vu une épigraphe collée aussi bien au livre lui-même. Accrochez-vous. Il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts, ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre, ce petit monde. Mais il n'existe plus. Fin de citation. Il n'existe plus, sauf dans les romans donc, et dans celui-là en particulier.
Que reviennent ceux qui sont loin. C'est signé Pierre Adrian et c'est chez Folio donc. Merci Nicolas Caro.
L'actualité des jeux vidéo à présent sur Europe 1 avec Caroline Speller.
Bonjour Caroline.
Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Le jeu vidéo de la semaine, c'est le grand retour au bout de la manette de la meilleure simulation de tennis. Ça s'appelle Top Spin 2K25.
Oui, tandis que les fans de foot, de F1 ou de catch retrouvent chaque année un nouveau jeu, ceux du tennis ont dû attendre 13 ans pour avoir enfin une suite à Top Spin 4.
Alors, quelle est la raison d'une absence aussi longue quand on sait la place que Top Spin occupe dans le cœur des joueurs, Caroline ?
Elle est financière. Top Spin a beau être reconnu, il n'atteint pas les ventes mondiales des simulations de foot ou de basket. À titre de comparaison, le Top Spin 4 de 2011, c'est un total de 1,24 million d'exemplaires vendus, tandis que le FIFA de la même année, c'est 3,2 millions en une semaine.
Bon, là, on parle simulation de tennis. Alors, pourquoi Top Spin fait son retour seulement maintenant ?
L'éditeur 2K profite d'un regain d'intérêt pour le tennis avec l'arrivée de nouveaux joueurs stars comme Alcaraz, Sinner et la fin de la domination du trio Federer, Nadal et Djokovic.
Et donc, est-ce que ce nouveau Top Spin est à la hauteur de cette attente, Caroline ?
Il retranscrit à merveille le tennis et ses sensations. Ici, on est dans la simulation, la vraie, celle où il faut à la fois bien positionner son joueur, avoir le bon timing pour la frappe, le bon dosage de puissance et la bonne trajectoire. Le jeu nous oblige donc à apprendre à jouer pour appréhender les matchs en simple ou en double dans son salon ou en ligne. Pour ça, il y a la Top Spin Academy, un tutoriel dirigé par John McEnroe.
Bon, alors si vous parlez de McEnroe, c'est qu'il y a des joueurs et des tournois officiels.
Oui, avant des mises à jour futures gratuites, on retrouve 25 sportifs dans un casting intergénérationnel de Roger Federer à Carlos Alcaraz et de Steffi Graf à Iga Świątek. On peut aussi jouer avec son propre athlète concret dans le mode carrière.
Jeu Agassi. Alcaraz mène 2-1.
Côté court, il y en a 48, dont ceux des 4 Grands Chelems et des 9 Master 1000. Et quel plaisir de glisser sur la terre battue de Roland-Garros. Oui, Top Spin 2K25 a sorti son service gagnant et c'est disponible sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.
Et ça faisait 13 ans, ça faisait longtemps que les fans de tennis sur console attendaient ça, le retour de Top Spin. Merci Caroline Speller. Il est 5h56 sur Europe 1, mardi 30 avril. La météo toujours pluvieuse, hein, Danissa Dadi, dans un instant.
Votre interview est quoi, 6h40? 30, Alexandre Lemaire.
On va parler du succès éclatant du PER, le plan d'épargne retraite. Vous êtes plus de 10 millions à en avoir un. Même Bercy n'osait pas rêver d'un tel succès. C'est une formule qui séduit les Français, qui reflète peut-être aussi l'inquiétude face au risque d'avoir des pensions de retraite un jour au rabais. Avantages et inconvénients du PER. On va en parler tout à l'heure à 7h20 sur Europe 1 avec Ludovic Erschlikowitz du portail retraite.com.
Ne manquez pas le pressing, ce sera juste après le journal. Les trois articles repérés pour vous dans la presse ce matin. Et à 6h20.
Et à 6h20, votre partition,
Omeline. Oui, le père du blues de Chicago. On se raconte une histoire de la musique américaine ce matin, celle du blues électrique, celle du guitariste Muddy Waters. Rendez-vous dans 20 minutes.
Avant le journal de 6h sur Europe 1, les dernières nouvelles du temps, les prévisions pour ce mardi. Alissa Haddadi, le temps va se dégrader à l'est du pays.
Oui, en Bourgogne, on attend des averses, certes, mais qui vont devenir orageuses au fil de la journée. Et d'ailleurs, des averses de grêle sont possibles aujourd'hui en deuxième partie de journée, donc sur le grand est du pays, et en particulier sur la Bourgogne. Ailleurs, c'est gris et pluvieux sur la majorité des régions, ou en tout cas sur cet axe qui va des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc-Roussillon. Donc vraiment un axe qui traverse tout le pays en passant par l'Oise, la région parisienne, le Nivernais, le Loiret, l'Auvergne, le Centre, le Limousin, jusqu'au bord de la Méditerranée, jusqu'à l'Hérault où il pleut actuellement. Il pleut à Montpellier ce matin. À l'ouest, alors c'est un petit peu plus calme. C'est vrai qu'on retrouve quelques belles éclaircies ce matin sur la Normandie, les pays de la Loire, l'est de la Bretagne, mais ça va se couvrir au fil des heures et exactement comme hier, avec le même schéma, le même scénario, nous allons cet après-midi, en fin de journée, retrouver un ciel couvert sur la Bretagne qui donnera au fil des heures des averses qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Vous l'avez compris, on n'en a pas fini avec la pluie.
On n'en est pas sorti encore. Ouais,
surtout que mercredi et jeudi sont deux nouvelles journées qui devraient être pluvieuses sur l'ensemble des régions. Côté température, alors ce matin, 5 degrés à Caen, 7 à La Rochelle et Nantes. Il fait plus doux. 9 degrés à Nancy, Metz et Dunkerque. 11 à Grenoble. 13 degrés à Paris. C'est pour ce matin ça. 14 à Bastia et 16 à Nice. Et alors cet après-midi, les températures sont comprises entre 13 et 26 degrés. Il fait très doux.
Merci Anissa Haddadi. À lire ce matin dans les journaux, la baisse inexorable du nombre d'ouvriers en France. Et cela malgré les promesses de réindustrialisation. Et puis un zoom.